Fidèles auditeurs et téléspectateurs des médias partenaires du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 8 septembre 2023. Le forum de la presse, c'est votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Et cette semaine, ces faits qui ont marqué l'actualité et qui ont retenu notre attention s'articulent autour de la conférence de presse animée lundi dernier par le Premier ministre de la Transition, Mahamane Ali Lamine Zène, s'est prononcé sur plusieurs questions qui concernent la vie de la nation et sur l'état actuel du Niger depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le 26 juillet 2023. La réouverture de l'espace aérien et l'annonce par certains médias du retrait partiel des troupes françaises du Niger. Enfin, nous terminerons avec la reprise des cours dans les universités publiques du Niger le lundi 4 septembre dernier. Et pour analyser tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir comme invité nos confrères Maïmouni Gado, journaliste indépendante, Arimi Abakiari, journaliste à la radio alternative, et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant également. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Dij. Le Premier ministre de la Transition était face à la presse nationale et internationale à Niamey lundi dernier. Il s'est agi pour Ali Mahamane Lamine Zène de faire le point de la situation au Niger depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le 26 juillet dernier. En ce qui concerne les efforts en cours afin d'aboutir à la levée des sanctions imposées au Niger par la CEDEAO, je vous propose de suivre les explications du ministre en charge des Finances et de l'Économie, le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zène.
Les efforts que nous faisons, c'est pour évidemment arriver à faire lever ces embargos qui ne se justifient pas. Nous avons pris des mesures d'ordre juridique et judiciaire. Aucun pays au monde n'a été sanctionné comme le nôtre l'a été ces dernières semaines. Ça ne se justifie pas qu'on empêche à un pays de disposer des médicaments. Ça ne se justifie pas qu'on empêche à un pays d'importer de la nourriture pour ses populations. Donc tout ça est en train d'être fait pour qu'on lève évidemment ces mesures. Nous sommes en train également, par un moyen ou par un autre, légaux, de mobiliser les ressources pour faire face à cela. Ce sont des défis qui se posent à nous. Nous sommes déterminés à aller de l'avant. Sur les mesures pour atténuer effectivement cela, le ministre en charge du commerce a été instruit pour s'assurer de la disponibilité de toutes les denrées alimentaires de première nécessité. Et il est prévu d'ailleurs l'opération de vente à prix modéré et peut-être dans les zones où cela s'exige, que cela soit, la distribution soit gratuite.
Maïmouni Gado, quelle analyse vous suscite ces efforts en cours?
Bon, je pense que d'abord, il faut s'en féliciter que le Premier ministre de la Transition quand même est sorti pour animer un point de presse, pour d'abord expliquer à l'opinion nationale et internationale depuis un mois les souffrances que les Nigériens sont en train d'endurer du fait de l'embargo, justement de la fermeture des frontières par la CEDEAO, et également parce que ça a des conséquences, qu'on le veuille ou non, ça a des conséquences sur les populations. Et les conséquences, il les a relevées. C'est vraiment pitoyable qu'on ferme des frontières et que des médicaments ne puissent pas rentrer aussi au Niger et que la nourriture aussi ne puisse pas, en tout cas, être acheminée en abondance ici au Niger. L'électricité, vous voyez comment les Nigériens sont en train de souffrir parce que le courant, c'est par délestage, c'est par nos propres moyens que nous sommes en train d'avoir l'électricité, si je peux le dire. Alors, tout cela nécessite, comme il a dit, qu'on essaie de voir comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir alléger certaines situations. en appelant la CEDEAO et l'UEMOA à faire diligence. Parce que ce n'est pas le Niger uniquement qui a eu à faire un coup d'État, mais ceux qu'ils ont pris pour le Niger comme sanction n'a pas été pris dans d'autres pays. Nous avons vu tout récemment qu'est-ce qui s'est passé au niveau donc du Gabon, même que le Gabon, ce n'est pas la CEDEAO, c'est vrai, mais quand même, ceux qui sont au niveau donc, de l'Afrique centrale n'ont pas pris les mêmes mesures que les mesures qui ont été prises ici par la CEDEAO. Donc je pense que vraiment, c'était utile de faire ce point de presse et c'était utile d'informer les uns et les autres. Maintenant, nous encourageons, s'il y a nécessité de parler de certaines situations, de sortir et de parler de ces situations-là pour que les populations soient quand même au même niveau d'information. Parce que, comme je l'ai dit, ce qui se raconte sur les réseaux sociaux et ce qui se raconte et ce qui a été dit par le chef du gouvernement, ça a éclairé la lanterne de beaucoup de gens. Voilà ce que je pouvais dire.
Merci beaucoup, Maïmouni Gado. Hussein Issa, quels sont les autres aspects importants abordé par le Premier ministre Mohamed Lamine Zène par rapport justement à la situation du pays après le coup d'État du 26 juillet 2023.
Okay. Mm-hmm. D'abord, les sanctions économiques telles qu'il a décrites, les a décrites, comme ailleurs, partout dans le monde, les gens ont décrit, on ne peut pas prendre de telles sanctions à l'encontre d'un pays qui est déjà dans une situation extrêmement difficile. Cette sanction-là affecte y compris les réfugiés. Les réfugiés, les déplacés internes et tout de ces pays-là. Aujourd'hui, y compris les migrants qui sont là, que nous abritons, c'est des sanctions qui les affectent avec beaucoup de ressortissants de la CEDEAO. Alors on comprend aisément quelque part que ce n'était pas des sanctions, c'était des sanctions qui ont été édictées, qui ont été inspirées par ceux-là qui sont dehors en train de s'agiter pour qu'on bombarde le Niger. Il a effectivement abordé cette question, mais il a fait comprendre que bon, dans tous les cas, la menace n'est pas écartée parce que la CEDEAO va jusqu'à dire on va venir menacer, on va venir frapper le Niger pour libérer Bazoum et le rétablir dans ses fonctions. On va voir, on attend.
Il a expliqué n'est-ce pas que le gouvernement ne souhaite pas donc
non, mais
la guerre.
Personne ne souhaite.
Mais si, ça,
mais
arrive,
si ça doit arriver, on va s'assumer. Il faut qu'ils se disent si les gens qui sont dehors s'agitent pour penser que.
Et le Premier ministre a dénoncé ces mesures.
Oui, mais justement, voilà, il y a cet aspect-là. Mais indépendamment de cet aspect, il y a également cette exigence forte des populations nigériennes. Il faut que l'armée française s'en aille. Il faut que l'ambassadeur, parce que c'est une question qui remet carrément en cause la souveraineté du Niger. Quand Macron se permet de dire on ne quitte pas parce qu'on ne connaît pas le régime. Mais ce n'est pas une affaire de régime, c'est une affaire d'État, n'est-ce pas? Cet aspect-là, c'est les Nigériens qui sont en train de les prendre en charge de manière efficace d'ailleurs, n'est-ce pas? Parce que les gens ne peuvent pas admettre qu'on est souverain ou on ne l'est pas. On veut montrer à la France qu'on est souverain et ils vont s'en aller. Aujourd'hui, ils sont dans une dynamique pour trouver un mécanisme où non, ça va se faire. Non, ils vont s'en aller tous. On n'a pas besoin d'eux. Il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. À partir du moment où ils ont considéré que le Niger, là, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'il y a des individus. À un moment donné de l'histoire, ils ont vendu ce pays. Ils ont permis à ces Français de venir s'installer. Il faut qu'ils comprennent que c'est fini. Cette page-là est tournée. Les gens vont se donner les moyens pour qu'ils s'en aillent.
L'ambassadeur
y compris, qui sont un peu arrogants, comment dire, méprisants vis-à-vis
du Niger.
Pour
le Premier ministre, d'ailleurs, il faut le souligner, c'est un partenaire non valable.
Non, mais il n'est pas valable. Merci. En quoi il peut être valable?
Merci.
Il est dans un département français. Non, je n'ai pas fini, ce n'est pas ce seul aspect.
Non, c'est
pas.
Pour revenir sur le partenariat même avec la CEDEAO et le dialogue
mais
en cours.
Mais tout
parce
ça,
qu'en
là.
Ce qui concerne le dialogue en cours entre Niamey et la CEDEAO, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zène a déclaré, je cite, « Nous sommes toujours en pourparler pour que la raison soit entendue et qu'elle soit de mise de manière à ce que ces pays qui poussent à ce que notre pays soit attaqué comprennent la raison de ne pas le faire. » Ce dialogue entre Niamey et la CEDEAO a-t-il suffisamment de chances d'aboutir?
Moi, je pense que ça va prospérer parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la CEDEAO. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas dans l'intérêt de la France. C'est clair. Et ce dialogue va prospérer parce que c'est quoi? Ils n'avaient jamais voulu d'un quelconque dialogue. Quelqu'un fait un coup d'État, il dégage le président. Vous dites non. Voilà le préalable. Il faut remettre le président à sa place. Non, alors, c'est de la foutaise, oui. Ceux qui vivent dans le pays là avec nous, ceux qui savent ce qui est bon pour les Nigériens, Alors, si ça doit faire un bras de fer, moi je me dis c'est parti, les gens ne vont pas reculer, n'est-ce pas? Et ça va pousser à l'éclatement de la CEDAO s'ils ne font pas attention, parce que de plus en plus, les populations ne sont plus d'accord avec cette institution, cette institution dont la vocation c'est d'abord de promouvoir l'intégration des peuples, mais l'intégration économique également. Mais on voit de plus en plus que cette institution-là est là pour défendre des chefs d'État qui n'ont même pas été valablement élus dans leur pays, des gens qui ont usurpé les urnes et tout et tout. Et chaque fois, il y a plein de problèmes auxquels les gens sont confrontés. Mais quand la CEDAO, à travers ces sanctions, on constate et on comprend qu'il faut refonder la CEDAO. Moi, j'ai dit, surtout de cette crise-là, il faut que la CEDAO soit refondée. Il faut que, et comment dirais-je, les fondamentaux de la CEDAO, il faut que les chefs d'État reviennent là-dessus. Ils ne sont pas là-bas pour penser qu'ils sont là pour se protéger mutuellement. Ils sont là-bas pour tenir compte des intérêts. Aujourd'hui, c'est carrément les intérêts du peuple nigérien qui sont remis en cause au nom de quelques individus. N'est-ce pas? C'est un régime. Il y a combien de régimes qui sont tombés? Alors, quand on se permet de considérer qu'on peut asphyxier un peuple, alors à quoi sert cette institution? À quoi
le Premier ministre a dit que dans tous les cas, il y a eu des actions au niveau de l'UEMOA et de la CEDAO. Est-ce que vous pensez que ces sanctions vont bientôt être levées
à partir de la démarche? Dans tous les cas, aujourd'hui, on s'est adapté. Ce Tinubu-là, il s'est empressé pour nous couper l'électricité. Est-ce qu'on est mort? Ils ont fermé les frontières avec le Bénin pour penser que les gens ne vont pas voir au Nigeria, ils ne peuvent rien. Le Nigeria, c'est 1000 et quelques kilomètres de frontières. Et de tout temps, les échanges entre les régions frontalières du Niger et du Nigeria, de tout temps, même quand on ferme les frontières, ces échanges-là, personne ne peut les arrêter. Il y a des mécanismes de contournement qui sont là, qui fonctionnent.
C'est vrai que les frontières sont poreuses.
Mais alors, ce qui choque les Nigériens aujourd'hui, c'est qu'à cause d'un régime, on décide de sanctionner tout un peuple. Ça, c'est inadmissible. De la part d'une organisation communautaire dont la vocation première est de créer les conditions d'intégration économique et des pays, mais également d'intégration des peuples, des peuples, n'est-ce pas? Mais on a comme l'impression que non, ils ont décidé. Mais alors, vous dites que vous voulez le bien-être, vous voulez mieux, c'est vous qui savez ce qui est bien pour les Nigériens. Est-ce qu'ils sont mieux placés pour savoir ce qui est bien pour les 23 millions de Nigériens? Ils
ne
le savent pas. Ils ne le savent pas. Les Nigériens sont en train de se mobiliser pour montrer qu'ils sont derrière la jeune, parce que c'est un soulagement.
Nous allons à présent nous intéresser à cette question d'endettement du Niger. En ce qui concerne en effet la question de la dette du Niger, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zène, qui est par ailleurs le ministre en charge des finances et de l'économie, a révélé qu'à la date du 4 septembre 2023, le Niger a une dette totale de 5 200 milliards de francs CFA. Dette totale du Niger, 5 200 milliards de francs CFA. Cet endettement total du Niger est, selon l'actuel gouvernement, composé de 3 200 milliards de francs CFA comme dette extérieure, contre moins de 300 milliards de francs CFA en 2010. Pour ce qui concerne la dette interne, elle est de l'ordre de 2 milliards de francs CFA contre 16 milliards de francs CFA en 2010. Abou Kiari, Arimi, quelle analyse vous suscite ces chiffres donnés par le Premier ministre?
Oui, en fait, c'est vrai que bon, le grand public ne s'intéresse pas souvent à ces informations-là, mais c'est des choses qui ont été déjà révélées. Juste au moment où le président Issoufou s'en allait pour être remplacé par le président Bazoum, par les forums citoyens organisés par Alternative Espace Citoyen, c'était clair que déjà en 2020, on a atteint un niveau d'endettement et qu'on a alerté d'ailleurs au cours d'une des sessions budgétaires
de l'Alternative budgétaire
co-citoyenne de l'Alternative
Espace-Citoyenne
chaque année en marge, je dirais, de la session budgétaire de l'Assemblée nationale.
Alternative avait communiqué
sur ces
dettes-là, mais est-ce que le gouvernement...
Bon, vous le savez déjà, ce qui s'est passé en 2018, au moment où
la loi des finances 2018 qui avait été jugée,
voilà,
en tout cas,
voilà,
injuste.
Parce qu'ils avaient mis en place des mesures drastiques pour pouvoir lever des fonds au plan interne, n'est-ce pas, avec des impôts, des nouveaux impôts et tout ce qui s'ensuit. Or, ça n'a servi à rien. Parce que là, on assiste à un endettement sans précédent. Sans commune mesure, le Niger n'a jamais atteint ce niveau. Vous avez entendu, en 2010, on était à 300 milliards. Aujourd'hui, on
moins
est...
De 300 milliards.
Moins de 300 milliards. Selon aujourd'hui, on est à 5200 milliards. On a multiplié par 4 la dette par tête du Nigérien. Ce qui est extrêmement grave, et c'est pour faire vraiment des travaux, je dirais, de prestige. Pour faire des travaux de prestige, parce que le réseau routier dans le pays, n'est-ce pas, c'est ces deux dernières années que ça s'est amélioré. Sinon, la route Tawa-Agadez-Arlit est restée en l'état. C'est maintenant que ça a évolué sous le président Bazoum, on va le dire. C'est comme la route Dosso-Gaya. Ça n'a évolué que vraiment ces deux dernières années. Et c'est maintenant que c'est fini. Autrement dit, donc, il y a eu des bâtiments.
L'ancien régime a annoncé des grands chantiers dans le domaine pétrolier aussi.
Oui, mais c'est de l'endettement. Il ne faut pas vivre. Parce qu'il y a un seuil, certainement qu'on n'a pas encore peut-être dépassé le seuil communautaire, du moins à ce seuil, par rapport à tous les pays, par rapport au produit intérieur brut et tout ce qui s'ensuit. Mais l'endettement à outrance, pour faire des grands travaux, qu'on connaît comment ça s'est terminé, parce que la corruption court quand même toute la rue aujourd'hui au Niger. Au moins, c'est ce sur quoi tous les Nigériens s'entendent aujourd'hui. Cet argent-là n'a pas réellement servi les Nigériens. Et c'est de là que si le 10 ans du président Tanja n'est pas arrivé, parce que bon, le président Tanja, bien sûr, a bénéficié d'une remise de dette, les fonds propriétaires et autres, mais c'était pour ne pas encore retomber dans cet endettement, parce que j'ai examiné l'année dernière le budget 2022 qui s'est achevé. Le service de la dette est le coût le plus élevé de ce budget-là. C'est plus que l'armée, c'est plus que l'école, c'est plus que tout. On était autour de 400 milliards et quelques de dettes remboursées. Et vous savez, les dettes, le problème, c'est quand l'échéance arrive, on ne peut rien. Vous ne pouvez que payer. Sinon, c'est les institutions internationales qui vont prendre vos avoirs pour donner à vos créanciers. C'est de cela qu'il s'agit. Et quand l'école coûte moins cher que la dette, quand la santé coûte moins cher que la dette, quand l'armée, parce que nous sommes dans une situation d'insécurité, coûte largement, malgré les détournements, les affaires MDM et tout, et nettement en deçà de la dette, autrement dit, on était allé. C'est comme disent les spécialistes, les activistes de la dette. En fait, on nous donne l'argent pour pouvoir payer les dettes passées, mais continuer à s'endetter. Ça devient un cercle infernal où on ne peut pas s'en sortir. Malheureusement, les gens, pour pouvoir se servir, eux, sont allés se chercher cet argent-là. Je crois qu'il est temps d'arrêter. Le Premier ministre l'a dit dans sa conférence de presse que le Niger va essayer de renégocier la plupart de ces dettes-là. Parce que, semble-t-il, que les gens qui ont de la liquidité à donner, je dirais, entre guillemets, de jeter par la fenêtre, nous ont endettés sans souvent passer par l'Assemblée nationale. Il y a plein de dettes qui ont été contractées sans passer par l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup.
Ça ne doit pas être...
Il faut donc beaucoup de lumière.
Le Premier ministre a proposé, ça c'est une des choses.
Des instructions ont été données maintenant, pour qu'on puisse savoir ce qui a été fait au niveau de ces dettes.
Justement,
il a demandé d'ailleurs au peuple nigérien de compter sur le gouvernement. Maïmoun Diado, qu'est-ce que les populations attendent? Oui, Ousseyne, on va arriver à vous tout à l'heure. Maïmoun va dire.
Oui, bien sûr. Parce que j'ai une idée que je veux compléter. C'est-à-dire, ce qu'Arimi vient de dire. C'est-à-dire que pendant pratiquement 12 ans, on a vécu sur la base de dette. Alors que dans le même temps où Tanja a pu parvenir à ramener ça à 300 milliards, il y a une ressource supplémentaire additionnelle qui vient s'ajouter, le pétrole. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait pendant toutes ces années? les ressources internes qu'on mobilise, qu'est-ce qu'on en faisait?
Avant, il n'y avait pas de pétrole naturellement. C'est beaucoup plus avec le régime de la Renaissance.
Alors,
oui, Maïmoun Diado, qu'est-ce qui est attendu du côté des populations par rapport à cet endettement?
Mais, par rapport à cet endettement, c'est ce que Hussein est en train d'expliquer. Mmh. Les populations ont soif de savoir réellement qu'est-ce qui a été en fait fait avec l'argent. Mmh. Où est-ce que l'argent a été investi? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Il faut... Les populations ont besoin que le pouvoir en place fasse des audits pour voir réellement partout où est-ce que l'argent a passé, est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que ça a été investi convenablement? Est-ce que ça n'a pas été détourné parce qu'il y a de la corruption, comme on l'a dit tout à l'heure? Donc, l'argent, en tout cas, si c'est les Nigériens qui doivent payer la dette, je pense que les Nigériens ont le droit de savoir où est-ce que c'est parti.
Certains s'amusent à calculer pour dire que s'il faut diviser par exemple 5200 milliards de francs CFA par 25 millions de personnes par exemple, ça va jusqu'à 200 000, ouais, un peu plus.
Oui, donc si moi
donc,
je dois
le
payer...
Premier ministre a dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais qu'est-ce qui est attendu concrètement? Qu'il y ait de l'impunité et qu'on puisse savoir où est parti l'argent, c'est ça?
Oui.
Merci beaucoup, Maïmoune Diado.
Mais il faut aussi investir ministère par ministère et ensuite prendre des mesures, comme il vient de le dire, pour que demain encore, ne retombe pas dans cette situation-là.
C'est important cet aspect-là.
Parce que c'est l'argent des Nigériens.
C'est ça qui va peut-être réconcilier les Nigériens. On ne peut pas vouloir badiner avec ça. Les gens se sont amusés avec l'argent public.
Mais oui, ils doivent
les gens se sont endettés ce pays-là. Un temps. Avant le renversement du régime Bazoum, les gens allaient, toutes les fins de mois, les gens allaient sur le marché de Limoges pour venir faire les salaires. Pendant qu'on prenait les impôts, pendant qu'on dédouanait, alors tout cet argent-là, ça veut dire que cet argent qu'on ramassait, l'uranium, le pétrole, ça va dans les poches. Il faut endetter pour faire fonctionner le pays. Ça ne va pas se passer comme ça. Ce que les gens attendent, c'est la justice sociale.
La justice. Tout cela,
bien sûr.
Merci.
Et que il faut faire ça de manière...
Vous êtes unanime à ce sujet, on vous a bien compris. Merci beaucoup.
Pas
nous passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir. Les autorités nigériennes ont annoncé dimanche la réouverture de l'espace aérien national pour les vols civils et commerciaux. Pour rappel, l'espace aérien du Niger est fermé depuis le 6 août 2023 par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie face à ce qu'il appelle une menace d'invasion militaire à partir des pays voisins suite au coup d'état militaire du 26 juillet 2023. Toutefois, cette décision ne s'applique pas aux vols militaires et autres vols spéciaux qui, eux, sont soumis à l'autorisation des autorités compétente selon le gouvernement. Abou Kyari, Arimi, que faut-il comprendre de cette nouvelle décision prise par le régime militaire qui gouverne en ce moment?
Bien sûr que la fermeture des frontières terrestres et aériennes ne saurait encore durer. Ça, c'est normal. Et c'est dans l'intérêt des Nigériens que les vols vraiment continuent, que Niamey soit la desserte de Niamey continue. Cependant, les vols militaires, ils ont dit qu'ils doivent cesser de venir, en tout cas qu'ils doivent faire l'objet d'une autorisation spécifique, spéciale. Tout ça, vraiment, je trouve que... Parce qu'il y a l'épée de Damoclès qui est là, en train de planer sur la tête du Niger encore, ce n'est pas fini.
Le danger est
le toujours danger là. De l'intervention pour soi-disant vraiment restaurer, quoi, je ne sais pas. Et ça, on a vu ce qui s'est passé au Mali. Aujourd'hui, on n'en parle pas trop, mais au vu de ce qui s'est passé chez nous récemment, tout laisse à croire que les militaires ivoiriens qui étaient au Mali et que les Maliens ont arrêté pendant plusieurs semaines, soi-disant qu'ils étaient venus pour les attaquer, les gens avaient raison apparemment.
49.
Voilà, les gens avaient raison. Et donc, c'est pour vraiment éviter de tels déconvenus. Parce qu'au niveau des frontières terrestres, il y a un contrôle extraordinaire qui est fait. Au niveau de la ville de Niamey, la population prend en charge un certain nombre de choses. Et donc, bien sûr, c'est les généraux, je le disais une fois, ils ont été dans des grandes écoles de guerre. Ils savent certaines interventions, comment ça peut se faire. Et c'est de vraiment de leur droit de dire que voilà ce qui ne va pas venir pour qu'on ne soit pas surpris. Je crois que c'est dans ce cadre qu'ils ont pris ces mesures-là.
Maintenant, la couverture, est-ce que c'est à saluer de votre point de vue?
Moi, j'ai un collègue qui a fait 40 jours à l'extérieur. Le coup d'État est intervenu la veille de son arrivée à Niamey. Et il est resté 40 jours à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas de vol pour Niamey. Et il y a plein de choses. Tantôt, on parlait des produits pharmaceutiques. Il y en a qui nous parviennent par l'aéroport. Mais aussi, il y a des malades qui sont évacués. La desserte de Niamey, c'est quelque chose d'extrêmement important. Même l'interdiction des autres vols, c'est parce qu'on est dans une situation où il y en a qui nous dérangent. Ils ne nous laissent pas vraiment dormir tranquillement et c'est pour prendre des mesures d'adaptation. Sinon, je pense que l'aéroport, c'est fait pour ça, c'est extrême. Parce que c'est un peu vivre en autarcie que de ne pas avoir un aéroport qui marche, des aéroports qui marchent dans un pays. Je trouve que c'est une très très bonne décision et c'est même un geste, je dirais, vraiment d'assouplissement, comment on dit, d'ouverture des généraux, vraiment, que de dire que l'aéroport c'est ouvert, mais on peut venir et partir de Niamey comme on veut. Je pense que c'est une très bonne chose.
Merci. Il y a déjà plusieurs survols du territoire national, donc Air France a officiellement annoncé qu'il survole déjà le territoire nigérien, mais il n'y a pas encore de desserte pour le moment. Les choses vont donc pouvoir se réorganiser certainement. Dans les jours et semaines à venir. Et toujours dans le domaine sécuritaire, oui, puisque beaucoup passent même par Niamey avant d'aller, par exemple, dans certaines zones comme Ouaga, comme dans beaucoup d'autres pays. En fait, il faut survoler le territoire nigérien. Et dans le même registre, il faut souligner que des informations relayées par plusieurs médias occidentaux font état de discussions en cours actuellement entre les militaires français et nigériens pour un retrait partielle des troupes françaises du Niger, des pourparlers dirigés par l'état-major des forces françaises installées au Tchad sous le commandement du général de division Eric Kozats se concentrent sur le rapatriement de certains équipements sensibles comme les avions Mirage 2000, les drones Reaper et certains hélicoptères. Les mêmes sources indiquent que ces discussions sont pour le moment limitées au niveau local et ne représentent pas un dialogue entre les gouvernements de Paris et de Niamey. De quoi s'agit-il réellement? Allez-y de façon succincte.
À mon avis, Paris ne veut pas boire la honte, comme on dit chez nous. Sinon, c'est inévitable. C'est dans quoi? En fait, dans la crise, là, on dirait que les gens se sont piégés d'eux-mêmes. Ils sont allés à des décisions extrêmes d'eux-mêmes et on est dans une situation malheureusement qui ne les favorise pas. Plus le temps passe, plus ils ont le dos au mur. Si Paris ne négocie pas le départ des troupes françaises, qu'est-ce qui va se passer?
Oui, il faut rappeler que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a eu à dénoncer d'ailleurs les accords entre l'État du Niger et la France. Il y a eu des communiqués, notamment le communiqué en date du 3 août qui a fustigé ces rapports, cette coopération. Et par rapport à tout ça, il y a eu également la question de l'ambassadeur Sylvain Ité, déclaré persona non grata. Et à l'heure actuelle, donc, le régime est toujours là en train de voir comment gérer tout ça. Et de ce point de vue, par rapport à tout ce qui se passe, il faut rappeler aussi les multiples sittings au niveau du rond-point Escadri, où se trouve donc la base française au Niger. Il faut dire que la France dispose d'environ 1500 soldats français pour ses différentes troupes. Mais Mundiado, peut-on s'attendre à une entente entre Niamey et Paris dans les prochains jours?
Bon, moi, je ne vois pas l'entente. L'entente, tout ce que les Nigériens souhaitent, c'est le départ de ces militaires. S'ils veulent, quand ils vont quitter le territoire nigérien, là, ils peuvent commencer à faire les discussions pour voir qu'est-ce qui est faisable de faire entre Paris et Niamey. Parce que là, c'est trop dit, en fait. Quand vous regardez l'arrivée de la force Barkhane ici, à Niamey, ça n'a aucunement passé par l'Assemblée nationale pour demander l'avis des populations.
En fait, il y a la politique de déclaration générale du Premier ministre
qui a été adoptée. Mais est-ce que ça a été... Est-ce que ça a été discuté en plénière?
Ça, c'est avec Bazoum. Oui. Avec Issoufou, justement, certains ont dit qu'il fallait faire passer une loi à l'Assemblée nationale pour autoriser.
Maintenant, ils ont été chassés de Burkina Faso. Ils ont trouvé l'asile au Niger. Ils ont été chassés au Mali. Ils se sont retrouvés ici, au Niger. Mais quand même, mais aujourd'hui, si le Niger demande, la population nigérienne demande le départ de la force militaire française, mais est-ce qu'on a à demander à la France qu'on ne veut plus de vous ici? C'est simple, hein? Ce n'est pas à négocier. C'est un État souverain. Le Niger a en tout cas le droit de prendre qui il veut sur son territoire, d'accepter qui il veut sur son territoire.
Merci beaucoup. Et de ne pas si on vous comprend, Paris n'a pas à dire que le gouvernement actuel n'est pas légitime ou que le régime n'est pas légitime.
On a demandé la révision, en tout cas, de tout ce qui concerne la défense, l'armée entre le Niger et la France. Mais on n'a pas dit que s'il y a une possibilité de coopération pour ceux qui restent et qui n'est pas militaire, que le Niger ne va pas marcher avec la France. Mais c'est la coopération militaire qu'on a demandé à ce que cette coopération militaire soit révisée. Est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. De la même manière qu'ils ont été chassés, l'armée française a été chassée au niveau de Mali et au niveau du Burkina, mais je ne vois pas en quoi, ici au Niger, aujourd'hui, des individus refusent de nous donner notre territoire, de laisser notre territoire. L'ambassadeur, mais regardez de l'autre côté. Aujourd'hui, au Gabon, c'est l'ambassadeur qui se déplace, l'ambassadeur français qui se déplace pour aller féliciter celui qui a fait le coup d'État.
Merci
et aussi,
beaucoup,
ici, au Niger, on demande à ce que l'ambassadeur vienne s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères et il refuse de venir. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait au Niger, concrètement? Il doit quitter, dans ce cas.
Merci, Ousseyni Sajibo. À l'heure actuelle, il faut rappeler que ces forces françaises sont présentes parce que Niamey avait accepté un temps qu'ils soient là, ces soldats français, parce qu'avec l'exécutif qui a précédé, des explications avaient été données pour dire que ce sont des forces utiles pour la nation. À l'heure actuelle, quelles sont les attentes des citoyens nigériens?
L'explication qu'ils ont donnée, c'est quelques individus, Issouf Mahamadou et son gouvernement. Personne, tous les Nigériens, les gens étaient hostiles bien avant qu'ils ne trouvent Koskorima à travers la modification pour les faire venir. Les gens étaient hostiles, foncièrement hostiles. Les gens n'ont jamais voulu. Et si on doit faire un peu l'historique, quand il y a eu la base projetée, et comment dire, la base aérienne projetée, ils avaient dit que non, c'est un soutien logistique pour pouvoir permettre de ravitailler les militaires qui étaient
au Mali,
n'est-ce pas? Après, maintenant, quand ça s'est gâté au Mali, ils sont arrivés et on a forcé. C'est pas parce que les Nigériens sont consentants. Ils ont une majorité à l'Assemblée. Ils ont décidé que ça va se passer comme ça. C'est eux, c'est pas. Les Nigériens n'ont jamais voulu de la présence de forces étrangères qui supposent une perte de souveraineté, une renonciation à sa souveraineté. Kounché, quand il était arrivé en 1976, la première chose qu'il a eu à faire en 1974, c'était de dire aux blancs de partir, n'est-ce pas? Et depuis, il y a eu simplement les accords de coopération, et ça, c'est des accords de coopération technique, où c'était pour des besoins de formation précises, dans des domaines comme la santé, comme le maniement de certains machins, ou le maintien de certains. C'était ça. Ces gens sont venus clandestinement. Ils ont signé combien d'accords qui n'ont jamais fait l'objet, même d'une information à l'endroit de l'opinion?
Merci, Ousseyni Issa.
C'est le comportement de Macron et de sa colonna, ou comment il s'appelle. C'est ça qui a poussé les militaires à sortir pour dire...
La ministre en charge des Affaires étrangères.
D'abord, parce que vous ne pouvez pas dire, vous n'avez pas signé avec un régime. Ce n'est pas avec un régime on signe. Y compris en France, les intellectuels sortent pour dire, c'est avec un État qu'on signe. Quel que soit par ailleurs le régime en place, on ne va pas dire, c'est pas parce que... Non, mais alors, c'est avec de décider qui est bien, qui est légitime, qui n'est pas légitime. Est-ce que c'est les Français qui vivent chez nous? Est-ce que c'est les Français? Alors, quand ils veulent faire des choses comme ça, c'est ça qui a braqué les Nigériens. Et je pense qu'il n'y a pas de possibilité de vouloir dire, bon, voilà comment on va faire. Non, ils vont partir. Ils n'ont qu'à aller avec leur matériel et tout. Aujourd'hui, La donne a changé. Allez demander dans la région de Tillabéri. Si vous demandez aux gens, ils vont vous dire voilà comment la lutte contre le terrorisme est en train d'être menée de manière efficace aujourd'hui. Comme ça s'est fait au Mali,
de
comme
votre
ça
point
s'est
de
fait
vue,
au Burkina.
Il y a donc une amélioration de la situation sécuritaire nette, vous précisez, par rapport à la situation sécuritaire.
Aujourd'hui, c'est l'armée qui a l'offensive.
Dans
et aujourd'hui, on a
mis
à... Non, c'est l'armée à l'offensive.
Merci.
C'était alors que l'armée, à l'époque, jusqu'à... a été à la défensive. Il pouvait y avoir une attaque dans un village à 10 km. Il y a un poste militaire, il ne peut pas se déplacer.
Merci, on vous a alors... bien compris. Nous allons terminer le forum de la presse de ce soir avec la rentrée officielle au niveau des universités publiques du Niger. Cette reprise officielle des cours dans les universités publiques du Niger a eu lieu le lundi 4 septembre dernier. Pour le moment, aucun mouvement de grève pour faire aboutir des revendications, aussi bien du côté des étudiants que du syndicat des enseignants du supérieur, n'est annoncé. À Maradi, l'on apprend que le comité exécutif des étudiants de l'université d'Andiko dans Clodo a bloqué les examens à travers une grève de 48 heures lundi et mardi. Une grève pour permettre aux autres étudiants qui ne sont pas encore à Maradi de ne pas rater les examens qui sont cruciaux pour plusieurs d'entre eux, a expliqué le secrétaire général de la structure Abdou Adamou au micro de Studio Kalango. Abou Kiari, Arimi, qu'est-ce qui fait la particularité de cette reprise des cours au niveau des universités publiques du Niger cette année?
C'est une entrée, normalement, c'est ce qui est, c'est ce que, à quoi bon, tout le monde s'attendait plus ou moins.
C'est
voilà,
en septembre
que la deuxième. Bon, depuis plusieurs années, ce n'est plus même la deuxième session. On permet aux étudiants d'avoir un mois, et à leurs enseignants d'avoir un mois de repos, puis de reprendre avant de finaliser les cours, puis faire les examens, et puis entamer la prochaine année. Ce qui fait que les années se chevauchaient. Mais qu'il y ait une entrée universitaire, déjà c'est une très bonne chose, parce que là aussi le Premier ministre, dans sa conférence de presse, est revenu, il dit que toutes les dispositions sont en train d'être prises. Bon, pour les étudiants, ce n'est pas si compliqué que ça. S'ils ont des arriérés de bourse, c'est de les payer, n'est-ce pas? Et puis, bon, ils ont toujours des plateformes revendicatives qu'il faut regarder, engager les négociations et ce qui s'ensuit. Bon, c'est vrai qu'il y a des enseignants aussi qui ont été inquiétés depuis la venue du général Tchani à la tête de l'État. Mais je crois que le véritable challenge vraiment pour ce pouvoir qui vient de s'installer, c'est la rentrée scolaire vraiment au niveau des lycées, collèges et du primaire. Parce que chaque année, des dispositions sont prises en fin d'année. Et malheureusement, on peut dire que c'est en fin d'année que le coup d'État est intervenu. En fin d'année scolaire, je veux dire. Et c'est le 26 juillet. Est-ce que tout s'est poursuivi comme prévu, comme programmé par l'autre gouvernement? Ou bien depuis, dès qu'elle est arrivée, le président, la ministre Chérif,
Elisabeth
Chérif s'en est attaquée directement à cet aspect de la chose. C'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui sont dans le privé, n'est-ce pas, chacun a commencé à payer son avance et tout, les enfants vont rentrer. Mais l'écrasante majorité est dans le public encore. C'est en Niamey que, bon, il peut y avoir un petit ballotage entre le public et le privé.
Parce qu'il y en a qui ont.
Voilà,
assez de
tout
moyens.
Le monde a opté.
Mais il y a des localités où vraiment c'est l'école
publique. Il n'y a même pas l'école privée à plus forte raison.
Il y a beaucoup plus de force. Mais si on vous a bien compris, en tout cas, on dit que l'État est une continuité. On a vu au niveau des universités publiques qu'il y a eu récemment une réception de bus.
Et ça, c'est vraiment
acquis aux frais de l'État. Donc, Maïmoun Diado, que peut faire le gouvernement actuel pour réussir à asseoir ce climat de confiance et avoir une bonne stabilité pour cette rentrée académique 2023-2024 au niveau de toutes les universités publiques du Niger, mais également en ce qui concerne les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire.
Les points ont été relevés et soulevés par Arémi par rapport justement aux préparatifs de la rentrée scolaire. Parce que pour faire une rentrée scolaire, il faut d'abord passer par les préparatifs. Il faut d'abord échanger avec les enseignants, faire des rencontres pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer et dans quelles conditions ils peuvent améliorer. Je pense que c'est les enseignants, les syndicats de ces différents enseignants ont quand même des plateformes revendicatives. Les plateformes revendicatives, c'est de discuter également sur ces plateformes revendicatives pour voir qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut améliorer et qu'est-ce qui peut être mis de côté pour l'instant pour qu'on puisse aller vers une rentrée scolaire qui n'est pas politique. On fait une rentrée scolaire qui est politique alors que les conditions ne sont pas réunies pour faire cette rentrée scolaire. Et il faut également que l'État tienne compte, que les nouvelles autorités tiennent compte de la situation des écoles fermées dans beaucoup de régions. C'est-à-dire que les écoles qui sont fermées au niveau de Tillabéri, au niveau de Diffa,
de voir
la situation de ces écoles-là, de voir également la situation des enseignants qui sont affectés dans les zones d'insécurité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont affectés dans des zones d'insécurité, mais qui, de force par rapport à cette insécurité, n'ont pas pu rejoindre leur poste pour pouvoir aller donner des cours, dispenser les cours. Donc, c'est des questions qu'il faut revoir. Il faut prendre région par région les difficultés pour une bonne reprise de l'école. Donc, région par région, regardez, la situation de Tillabéri ne peut pas être la même situation aujourd'hui de Zinder ou la même situation de Dosso. Donc, c'est par région et en collaboration avec tous les enseignants, en collaboration avec les syndicats des enseignants, qu'on peut arriver, en tout cas, à faire une bonne rentrée scolaire. Voilà ce que moi, j'ai à dire.
Ousseyni Sadjibo.
On est dans un contexte particulier, le coup d'État, le changement de régime, avec tout ce qu'on connaît comme sanctions, comme difficulté de pouvoir, pour l'État, de pouvoir trouver de l'argent. Ils ont promis que la rentrée va avoir lieu, des dispositions ont été prises sur la base des ressources mobilisées à l'interne pour créer les conditions pour que la rentrée puisse avoir lieu. Moi, je dis, il ne faut pas vouloir tenir rigueur pour dire que forcément, dès le départ, moi, je dis, ça doit se faire de manière progressive. C'est-à-dire en fonction de ce qu'on peut faire et les problèmes qui se posent ici et là pour pouvoir faire. Moi, je ne vais pas l'obtenir rigueur. On est dans un contexte quelque part particulier. Même quand le contexte était normal, ces gens passaient tout leur temps à prendre de l'argent pour faire des choses. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il n'est même plus possible de trouver l'argent dehors. C'est à l'interne que ça se joue. Et l'argent qu'ils ont trouvé, ce qu'on a comme réserve dehors, ils ont dit ça ne rentre pas. Alors moi, je me dis, ils ont promis, il y a des dispositions, c'est ce que le Premier ministre a dit, pour que la rentrée puisse s'effectuer. Mais je me dis, de tout temps, pendant des décennies aujourd'hui, la rentrée n'est jamais totalement effective dès le premier jour de la rentrée. N'est-ce pas? C'est toujours de manière...
On sait tout cela, mais il faut quand même sauver l'année. Oui, parce que ce serait un grand gâchis, puisque quand on perd une seule année scolaire, c'est comme si on a perdu plusieurs...
On va pas. Moi, je ne pense pas qu'on va sauver, qu'on va perdre l'année. Moi, je n'ai aucune... Je me dis...
Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour avoir le minimum, en fait, pour avoir en tout cas une rentrée?
Ils ont dit que les dispositions étaient prises, n'est-ce pas?
En bonne et due forme, mais que l'année soit stable.
Oui, oui. Mais maintenant... Maintenant, du point de vue de la mise en place du matériel, des manuels, des cahiers et autres, des fournitures scolaires, on ne sait pas, parce que vous savez, c'est... Voilà, c'est quelque part, c'est en juillet, fin juillet pratiquement, que le coup d'État est intervenu. Et d'habitude, les préparatifs de la rentrée scolaire commencent dès juin. Souvent, même avant juin, on commence... Ça veut dire qu'il y a déjà un dispositif qui était là quand le coup d'État est intervenu. Maintenant, peut-être c'est le gap-là qu'il va falloir chercher au fur et à mesure que les choses avancent, pouvoir voir...
Pour
là,
pouvoir corriger,
un peu
et
les
chercher à améliorer ce qui ne va pas. Merci, on vous a bien compris. Merci beaucoup, Ousseyni Sadjibo. Et c'est ici que se referme ce forum de la presse du studio Kalangou de ce vendredi 8 septembre 2023. Merci de nous avoir suivis. J'étais en compagnie de Maïmoune Diado, journaliste indépendante, Aboukiari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Ousseyni Sadjibo, journaliste indépendant également à la modération du forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Deji, l'équipe technique est composée de Amina Hassan et Issa Laoli. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous et au revoir.